VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Idrissa Seloudia et Chérubin Dorsil, bonsoir à tous. Bienvenue à l'édition de ce jeudi 30 avril 2015. À la une ce soir.
Des blessés dans de nouveaux affrontements aujourd'hui à Bujumbura, fermeture des résidences universitaires.
Des soldats français accusés de viol et d'agression sexuelle sur des enfants en Centrafrique.
L'élection présidentielle du 25 avril au Togo a été, selon l'ONU, crédible, libre et transparente.
Le chef des rebelles ougandais ADF arrêté en Tanzanie selon la presse locale.
Crise au Yémen, les monarchies du Golfe exigent que toute négociation se tienne sous leurs auspices et en Arabie Saoudite.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Burundi, 9 opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont été blessés jeudi dans de nouveaux affrontements avec la police à Bujumbura, la capitale. Le gouvernement a fermé les résidences universitaires pour enrayer la protestation. Timothée de Langmaï.
De nouveaux heurts ont eu lieu dans le quartier de Kinanira, dans le sud de Bujumbura. Des jeunes avaient réussi à passer 2 barrages avant d'être arrêtés par la police anti-émeute qui tirait à balles réelles. Selon la Croix-Rouge, le bilan partiel est de 9 blessés. La police déplore une 60aine de blessés depuis le début des manifestations dimanche et 6 personnes ont été tuées. Le gouvernement a fermé les résidences universitaires officiellement pour des problèmes de sécurité, mais pris comme un geste pour enrayer la protestation. Samedi, Pierre Nkurunziza a été désigné candidat de son parti, le CNDD-FDD, à la présidentielle du 26 juin. L'opposition et la société civile sont déterminés à se battre contre cet éventuel troisième mandat. M. Nkurunziza a été élu en 2005 par le Parlement, puis au suffrage universel en 2010. Son camp assure que le premier mandat ne compte pas du fait du suffrage indirect. Un émissaire américain et un envoyé onusien sont à Bujumbura pour tenter de trouver une solution.
Le chef de la rébellion ougandaise des forces démocratiques alliées, ADF, accusé d'avoir assassiné plus de 300 personnes depuis octobre dans l'est de la République démocratique du Congo, a été arrêté en Tanzanie. Selon le journal officiel ougandais New Vision, que cite l'AFP, Jamil Mukulu est actuellement détenu en Tanzanie dans l'attente d'une extradition en Ouganda. Les polices ougandaises et tanzaniennes ont refusé de confirmer ou démentir cette arrestation. Les rebelles musulmans des ADF, opposés au président ougandais Yoweri Museveni, sont basés depuis 1995 dans l'est de la RDC, où ils mènent des attaques contre les civils.
Au Mali, 4 personnes ont été tuées aujourd'hui et plusieurs autres blessées dans le nord du pays par l'explosion d'une mine au passage de leur minibus près de Gao. Les populations du Nord s'inquiètent et doutent de la signature de l'accord de paix le 15 mai prochain. Reportage Boubacar Touré.
Le véhicule de forêt se rendait à Doro, à 105 km de Gao, à bord plus d'une vingtaine de personnes. À Anafarka, village situé à 45 km de Gao, il saute sur une mine ce matin, un peu avant 7h heure locale, faisant 2 morts sur place. Une 3e personne meurt en cours de route et une 4e succombe à ses blessures à l'hôpital régional où plusieurs blessés reçoivent des soins intensifs. Les auteurs de ce crime perpétré contre des civils innocents visaient certainement le convoi de militaires qui escortaient les cars et les camions de Gao à Gossi. Une disposition prise par les autorités militaires après les assassinats de 3 chauffeurs de camions civils qui transportaient du matériel de la MINUSMA la semaine dernière. Cette disposition entrait en application ce jeudi matin. Une situation d'insécurité grandissante qui inquiète les populations du Nord qui commencent à juste titre de douter de la signature d'accord de paix du 15 mai prochain annoncé par les autorités de Bamako et la communauté internationale. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Toujours au Mali, le calme est revenu à Léré, dans le centre du pays, indique l'AFP, suite aux combats qui ont opposé hier la rébellion à l'armée malienne. Ces combats ont fait 10 morts parmi les rebelles et 9 chez les militaires, ainsi qu'une 20aine de blessés au total, a annoncé le ministère malien de la Défense. Dans un communiqué, le ministère a affirmé que le bilan provisoire de ces affrontements près de la frontière mauritanienne s'élève pour l'armée à 9 morts, 6 blessés, 6 otages et côté ennemi à 10 morts et 16 blessés. Le ministère assure que Léré est maintenant sous contrôle de l'armée.
Selon l'armée nigériane, les quelques 500 otages de Boko Haram libérés cette semaine par les forces armées dans la forêt de Sambisa étaient détenus dans des conditions inhumaines. Lionel Gahima.
L'armée va complètement ratisser la forêt, a déclaré hier à Abuja le porte-parole de l'armée Chris Olukolade, ajoutant qu'il y avait grand espoir que d'autres otages soient libérés. Près de 500 femmes et enfants enlevés par Boko Haram ont été libérés depuis mardi dans le nord-est du pays. L'armée a annoncé hier la libération des 160 femmes et enfants dans la forêt de Sambisa, venant ainsi ajouter à la libération la veille de 300 femmes et filles dans la même zone. L'armée doit les identifier avant de savoir si parmi elles figurent certaines des lycéennes enlevées à Chibok en avril 2014. Elle a publié des photos. Selon M. Olukolade, l'armée a pris le contrôle de plus de 13 camps islamistes au cours des derniers jours et a saisi des armes. Plusieurs commandants et combattants islamistes ont été tués, a-t-il dit, et un soldat a été tué et 10 autres blessés.
En Mauritanie, des milliers de Haratines, les descendants d'esclaves, ont marché hier à Nouakchott pour réclamer leurs droits. Les principaux leaders des mouvements contre l'esclavage, notamment Biram Daoud Abeid, sont toujours en prison. Bala Touré, militant anti-esclavagiste à Nouakchott.
Le 29 avril, les Haratines ont marché à Nouakchott. C'était pour l'anniversaire de la publication du manifeste pour les droits des Haratines. La manifestation a rassemblé beaucoup de monde. Cette marche rentre dans le cadre de leur plan d'action pour que les Haratines recouvrent leurs droits à la justice, à une éducation décente, leur droit à accéder au travail en Mauritanie, leur droit à être des citoyens à part entière. Les militants anti-esclavagistes d'Iran Mauritanie, Biram Daoud, le vice-président Brahim Biga, ainsi que le président Fandje Kautal Ngambéli Karibi Bissau, sont encore en prison pour avoir dénoncé l'esclavage foncier, dont sont victimes généralement les Noirs en Mauritanie. Une ou deux personnes ou une famille a la possibilité de posséder dans un contrat toutes les terres fertiles et que toute personne qui refuse de se soumettre à leur dictat ne peut accéder à la terre. Et tout cela est fait avec une complicité active des autorités mauritaniennes.
Bala Touré, militant anti-esclavagiste à Nouakchott.
Les Nations Unies trouvent crédible, libre et transparente l'élection du 25 avril au Togo, officiellement remportée par le président sortant Faure Gnassingbé, mais contestée par l'opposition. « Nous sommes contents de ce que nous avons vu », a déclaré à Lomé, selon l'AFP, Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. La formation du challenger Jean-Pierre Fabre a rejeté ces résultats, qualifiant le scrutin de frauduleux. Et Fabre a dit lui-même hier qu'il se considérait comme le président élu du Togo.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les eurodéputés ont appelé aujourd'hui l'Union européenne à aider le Kenya à faire face à la menace des islamistes somaliens d'Al-Shabaab en fournissant de la formation et des équipements militaires modernes aux forces de sécurité de Nairobi. La résolution des eurodéputés fait suite au raid mené début avril par les Shabab contre l'université de Garissa au Kenya qui a fait plus de 140 morts parmi les étudiants.
Et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a été reçu aujourd'hui par le chef du gouvernement espagnol. Sa visite, la première d'un président égyptien depuis 2006, a été mal accueillie par les défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent la répression en Égypte.
Crise au Yémen, les monarchies du Golfe ont exigé aujourd'hui que toute négociation se tienne à Riyad sous les auspices de leur groupement régional. Les 6 pays membres du Conseil de coopération du Golfe, précise l'AFP, ont formulé cette exigence dans la capitale saoudienne à l'issue d'une réunion de leur ministre des Affaires étrangères. Elle rejette ainsi les appels de Téhéran à des pourparlers internationaux hors de l'Arabie saoudite.
La Chambre des représentants des États-Unis envisage une mesure augmentant les fonds alloués aux combattants kurdes, les Peshmerga, et forces sunnites luttant contre le groupe État islamique en Irak. En tout, ces soldats recevraient 25% des 715 millions de dollars dont le versement a été déjà autorisé par le Congrès pour la formation et l'approvisionnement des forces luttant contre les djihadistes.
Baltimore, cette ville de l'est des États-Unis, non loin de Washington, est encore dans l'actualité. L'attention se porte maintenant sur le rapport d'enquête de la police autour de la mort de Freddie Gray le 19 avril dernier après son interpellation. Ce rapport, disent les autorités, a été transmis aujourd'hui au procureur qui décidera si oui ou non les 6 policiers impliqués dans le cas doivent être inculpés. Cependant, le public n'aura pas immédiatement connaissance du contenu de ce rapport. Le calme a encore prévalu aujourd'hui à Baltimore où des manifestations manifestations pacifiques ont eu lieu hier soir. Ce n'était pourtant pas le cas à New York, où la police a arrêté une centaine de personnes lors de manifestations contre la mort de Freddie Gray. Des mouvements de protestation se sont déroulés également à Boston et à Washington, D.C. Le jeune noir de 25 ans a subi des blessures à la colonne vertébrale alors qu'il était dans un fourgon de la police. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coudez maintenant sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco, Camille Grodillier.
Le Fonds monétaire international et l'Association internationale de développement de la Banque mondiale ont accordé au Tchad un allègement de la dette de 1,1 milliard de dollars, dont 1 milliard de dollars sera offert par des créanciers multilatéraux et le reste par des créanciers bilatéraux et commerciaux. La banque et le fonds ont déterminé que le Tchad a accompli des progrès satisfaisants pour remplir les conditions requises afin d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, l'initiative dite PPTE. En 2014, la Somalie a exporté 5 millions de têtes de bétail, un record. Et ce, grâce au commerce avec les États du Golfe arabo-persique qui ont dopé les investissements à long terme dans la filière élevage. C'est la première fois depuis 20 ans que la Somalie exporte un aussi grand nombre de bétail, signale la FAO. On écoute Nicolas Tremblay, coordonnateur du programme de la FAO en Somalie.
Dans les dernières années, des investissements très très importants ont été consentis dans l'ensemble de la filière animale. La FAO a notamment soutenu des efforts en matière de prévention des maladies animales avec la vaccination, mais également le traitement curatif pour certaines maladies communes. La FAO, tous les ans, vaccine à peu près 12 millions de petits ruminants contre la peste des petits ruminants, qui est une des maladies les plus répandues et désastreuses pour le cheptel en Somalie.
Les propos de Nicolas Tremblay étaient relayés par Muriel Sarr de la FAO.
Et merci à vous, Camille Grodillier, pour cette Minute Éco.
On passe tout de suite à l'actualité sportive. Présentation Timothée Donangmaï en studio. Salut Tim.
Salut Gabi.
On commence avec le football congolais. Le TP Mazembe a terminé en beauté la phase aller des playoffs.
Tout à fait Gabi. Le club de Lubumbashi a disposé hier du Daring Club Motema Pembe 3-0 à Kamalondo. Un doublé de Samata et un but de Kasusula ont permis au Corbeau de s'imposer facilement. Le tout-puissant Mazembe devra tout de même attendre les deux derniers matchs du Vita Club pour savoir s'il finira premier ou deuxième de cette phase aller.
Et la suite des playoffs du championnat nord-américain de basketball, la NBA.
Alors, dans la conférence Est, Brooklyn a été battu par Atlanta 97-107. Atlanta qui mène désormais la série 3-2. Dans la conférence Ouest, Memphis s'est qualifié pour la suite en venant à bout ce matin de Portland 99-93. Memphis remporte donc cette série 4 victoires contre 1.
Et pour la série Atlanta-Brooklyn, j'aimerais que ça aille jusqu'au 7e match parce qu'entre-temps, Washington se repose attendant le vainqueur de la série. Mauvaise nouvelle pour Cleveland et LeBron James.
Et oui, Gabi, Kevin Love, l'un des membres du Big Three de Cleveland, ne rejouera plus cette saison après avoir été opéré de l'épaule gauche. C'est ce qu'a annoncé hier son équipe qualifiée pour les demi-finales de la conférence Est. La durée de son indisponibilité est de 4 à 6 mois, ont précisé les Cavaliers. Au prochain tour, Cleveland sera opposé à Chicago, soit à Milwaukee. Les Bulls mènent la série par 3 victoires à 2 face aux Bucks.
Et parlons maintenant de boxe, et je sais que c'est un sport qui intéresse particulièrement notre doyen Idrissa. Qu'est-ce qu'on est prêt pour ce grand match, Mayweather et Pacquiao?
Pour moi, vraiment, ce sont des has-been, des gens qui sont dépassés. C'est plus la belle époque des Tyson et autres. Alors, j'avoue qu'il y a beaucoup de media hype, comme ils disent dans ce pays. On fait beaucoup de tapage.
Beaucoup de bruit autour de ça. Et Las Vegas se prépare, Tim.
Eh oui, Gabi, et pendant ce temps, aux Philippines, les compatriotes de Pacquiao sont appelés à reporter leur corvée de machines et de repassage. Question d'économiser suffisamment d'électricité pour visionner le combat de leur champion.
Merci, c'était les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Romain Dorcel et Idrissa Seloudia, en votre compagnie, place au dossier du jour.
Et nous ouvrons cette partie sur la RCA où de graves accusations de viol et d'agression sexuelle sur des enfants de 9 à 11 ans ont été portées contre des militaires français. Des militaires déployés dans le cadre de l'opération Sangari sont soupçonnés d'avoir abusé sexuellement des enfants lors de leur mission à Bangui. Félix Yapassis Zembro.
L'affaire qui faisait l'objet d'un document confidentiel de l'ONU transmis aux autorités françaises a été dévoilée cette semaine par le quotidien britannique The Guardian. Elle remonte à décembre 2013 et juin 2014, période durant laquelle les violences intercommunautaires entre les miliciens anti-Balaka et l'ex-rébellion Séléka ont poussé des milliers de civils à se réfugier sur le site de l'aéroport international de Bangui Mpoko sous contrôle des forces de l'opération Sangaris. Réaction du procureur de la République, Ghislain Grézingué, joint à Bangui.
La justice centrafricaine tient à ce que la lumière soit faite sur cette situation qui constitue quand même des faits d'une extrême gravité. Pour ce faire, le parquet vient d'ouvrir automatiquement une enquête afin de chercher à faire la lumière et d'établir les responsabilités.
Si les faits sont avérés, la justice centrafricaine prendra contre les auteurs toutes les mesures qui s'imposent, a souligné le procureur de la République, Ghislain Grézingué.
Mais si les faits s'avéraient exacts, vérifiés, mais vous savez que la procédure que nous déclenchons au niveau du parquet, c'est pour permettre à ce que l'action publique aille jusqu'au bout. Nous nous disons que notre procédure doit conduire au prononcé d'une peine, une sanction pénale pour sanctionner les auteurs de cet acte ignoble.
Pour sa part, le président français François Hollande a assuré qu'il sera implacable si certains militaires se sont mal comportés en Centrafrique.
Si certains militaires, je n'en sais pour l'instant pas plus, s'étaient mal comportés, eh bien, il y aurait des sanctions qui seraient à la hauteur de la confiance que nous portons à l'égard de l'ensemble de nos armées. Parce que moi, je suis fier de nos armées et donc implacable à l'égard de ceux qui se seraient mal comportés, si c'est le cas, en Centrafrique.
Les accusations ne donnent aucun nom. 14 soldats français sont soupçonnés d'être impliqués. Parmi ces militaires, très peu ont été identifiés, indiqué une source judiciaire à l'agence France-Presse, sans en dévoiler le chiffre précis.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Parlons maintenant de la découverte de ces 4 fosses communes en RDC, près de Beni, dans le nord-est, au cours d'une offensive qui leur a entre autres permis de tuer le responsable numéro 3 des rebelles ougandais et des ADF. Les forces armées congolaises affirment avoir découvert des corps humains dans 4 fosses communes. Elles disent aussi que tout cela est ouvert à une enquête internationale. Eddy Isango a joint depuis Beni le porte-parole de l'opération Sokola 1, Major Victor Massandi.
À première vue, on a pu croire que c'était des armes qui étaient enterrées, mais après avoir ouvert ces fosses, c'était plutôt des corps humains. Alors directement, on a pu comprendre que c'était des ADF tombés sous les accrochages, mais aussi des otages, mais aussi ça peut être des fatigués, des malades et des blessés qui étaient dans les groupes ADEF qui ont été exécutés sommairement et enterrés. Alors, les commandements des opérations Sokola 1, dirigées par le général de brigade Mouindo Akili Charles, a souhaité à ce qu'il y ait une enquête internationale et comme ça, on va tirer au clair cette tuerie macabre et barbare des ADF.
Est-ce qu'on sait quand est-ce que cette enquête internationale que vous demandez pourrait commencer?
Il y a la MONUSCO qui est ici. Nous pensons qu'il y a des ONG aussi internationales qui vont aussi, avec la justice congolaise, ils vont s'y prendre, mais à notre niveau, nous avons lancé les communiqués et la hiérarchie est en train de voir dans quelle mesure on peut donner l'accès, parce que c'est dans La profondeur du parc Virunga dans la forêt, des fois c'est difficile d'y accéder.
Les forces armées congolaises ont déclaré avoir tué mercredi le responsable numéro 3 des ADF Nalo. Est-ce que c'est au cours de cette même offensive que vous avez découvert les quatre forces communes?
C'est au cours de ces affrontements que M. Kassada, la troisième personnalité des ADF, qui était chargé aussi des opérations, est tombé. C'est-à-dire on n'a pas réussi à les chasser de la région. Ils sont encore dispersés dans la forêt, dans le parc de Virunga. Nos troupes aujourd'hui, là, ils sont toujours à la traque, les troupes spécialisées, et continuent la poursuite contre l'ennemi. Et ils sont déjà repérés quelque part dans la forêt où nous sommes presque à quelques kilomètres pour de nouveau lancer une attaque définitive.
On écoutait le major Victor Massandi.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré cette semaine au Burundi. Impossible troisième mandat du président Pierre Nkurunziza met le pays en émoi et rappelle les heures sombres de la guerre civile. Laissez vos commentaires sur notre page Facebook et rendez-vous ce jeudi dans notre émission à 19h TU sur VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo, détenu par la CPI, a été déclaré jeudi président de son parti, le FPI, par un millier de partisans réunis en congrès à Mamak, village natal de M. Gbagbo, dans l'ouest du pays. C'est le dernier épisode en date de la crise qui déchire la principale formation d'opposition. Idriss Fall a recueilli la réaction de Pascal Afinguesson, président du Front populaire ivoirien, actuellement en tournée dans la région de Boaké.
Ce regroupement peut être qualifié de tous les noms, sauf de celui du congrès du Front populaire ivoirien. Ce regroupement ne répond ni aux règles prescrites par les statuts du parti. Il n'est pas du tout convoqué par les organes compétents du Front populaire ivoirien. Donc, ce n'est pas un congrès du Front populaire ivoirien.
Ces partisans de Gbagbo disent que vous n'êtes plus leur président.
Oui, mais ce n'est pas leur volonté qui compte. C'est la volonté générale des militants du parti et la légalité, donc le respect des lois, des règles de la République, des statuts du parti. Et à plusieurs reprises, la justice ivoirienne leur a signifié clairement qu'ils étaient dans l'illégalité et que je demeure le président statutaire du Front populaire ivoirien.
Et pourquoi est-ce que vous avez plus ou moins abandonné Laurent Gbagbo?
C'est là l'erreur fondamentale de penser que Afinguesson a abandonné Laurent Gbagbo. Au contraire, Afinguesson est le principal défenseur du président Laurent. Ce sont les actions que je mène à l'heure actuelle, en l'occurrence Maître Altit, pour argumenter la nécessité de mettre le président Laurent Gbagbo en liberté. Nous considérons que le président Gbagbo est un acteur incontournable de la réconciliation et qu'il faut donc le mettre en liberté. Les camarades qui sont en face n'adhèrent pas à cette vision, veulent au contraire s'engager dans un bras de fer avec le pouvoir, avec la communauté internationale. Voilà ce qui nous divise.
Est-ce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle?
Le parti décidera dans quelques semaines de l'identité de celui qui doit porter cette couleur à la présidentielle de 2015. Le Front populaire ivoirien sera présent à cette importante consultation.
Les partisans de Gbagbo disent que si vous êtes candidat, c'est pour faire valoir, donner une certaine légitimité à Alassane Ouattara.
Cette déclaration n'engage que quelqu'un qui se présente à une élection, c'est pour la gagner. Une élection est d'abord une bataille. Une bataille contre les conditions électorales, une bataille contre un adversaire politique. Et nous nous inscrivons dans cette bataille plutôt que de nous mettre dans une logique de démission, de capitulation, tout simplement parce que des conditions ne seraient pas réunies. Donc entre la démission et la capitulation, pour laisser à la Alassane Ouattara en roue libre, l'accompagnement, c'est plutôt du côté de ceux qui ne veulent pas se battre, ceux qui ne veulent pas être présents dans la bataille électorale et qui veulent que Ouattara soit élu avant l'élection.
C'était Pascal Afinguesson, président du Front populaire ivoirien.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Autre point de l'actualité au Nigeria, l'armée a annoncé la libération d'un nouveau groupe d'otages retenu par Boko Haram dans la forêt de Sambisa dans le nord-est du pays. Ce sont en tout quelques 500 femmes et enfants qui ont été secourus depuis mardi par les troupes nigérianes, mais toujours pas de traces des plus de 200 lycéennes de Chibok dont l'enlèvement en avril 2014 avait ému le monde entier. Pour une réaction, Timothée Donangmaï a joint le professeur Tundunu Amosu, ancien vice-recteur de l'Université de l'État de Lagos.
D'après les informations que nous donne régulièrement justement l'armée nigériane, cette fois-ci, les lycéens de Chibok ne figurent pas sur la liste. Et il est certain que si, effectivement, on arrive à les retrouver, ce seront toujours les premiers à être portés au devant de la scène.
On parle d'une offensive de l'armée nigériane dans la forêt de Sambisa, dernier bastion de Boko Haram. Qu'est-ce que cette forêt représente au plan difficulté, au plan stratégique?
La forêt de Sambisa, c'était un lieu, comment dire, ça faisait partie de ces espaces non gouvernés, parce que de toute façon, les autorités ne s'y intéressaient pas du tout. Et au moment où de passer à l'action maintenant, cela devient un peu difficile parce que les Boko Haram se retirent et je crois qu'ils ont bien compris la nécessité, je dirais même l'avantage d'emmener les demoiselles de Chibok. Parce que s'ils ont abandonné certaines femmes, je veux dire, du point de vue stratégique, bon, on pourrait toujours abandonner des gens qui ne vont pas quand même être dans certaines... effet positif pour leur action.
On avait pensé qu'avec l'offensive internationale, l'offensive régionale, Boko Haram avait été neutralisée dans le reste du Nigeria, mais apparemment, ce n'est pas le cas.
Non, apparemment, ce n'est pas le cas parce que Boko Haram, comme les frères de l'État islamique, ils ont des d'étonnantes capacités de redressement. Dieu sait où ils obtiennent les armes. Mais moi, je suis vraiment persuadé que d'une part, ils ont toujours le soutien de beaucoup de personnes très importantes. Je ne sais pas, je n'ai pas de nom précis, mais je sais que tout cela, ils ne sont pas partis de rien. Et évidemment, pour les fournir en munitions et tout, il est certain qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment mis la main à la poche, quoi. Donc, s'ils continuent à faire... à empêcher l'armée nigériane de vraiment passer au point de retrouver les demoiselles de Chibok, c'est qu'ils ont encore des armes. Et tant qu'on n'aura pas achevé la neutralisation, je crois que la situation sera toujours au point où nous en sommes.
C'était le professeur Tundunu Amosu, ancien vice-recteur de l'Université d'État de Lagos.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde, aujourd'hui sur VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Est blessé dans de nouveaux affrontements aujourd'hui à Bujumbura, fermeture des résidences universitaires.
Des soldats français accusés de viol et d'agression sexuelle sur des enfants en République centrafricaine.
L'élection présidentielle du 25 avril au Togo a été, selon l'ONU, crédible, libre et transparente.
Le chef des rebelles ougandais ADF, Jamil Makulu, arrêté en Tanzanie, selon la presse locale.
Crise au Yémen, les monarchies du Golfe exigent que toute négociation se tienne sous leurs auspices et en Arabie Saoudite.
23 degrés Celsius à Bujumbura et près de 40 degrés à Gao dans le nord du Mali. Seulement 21 ici à Washington, la capitale fédérale des États-Unis, où des pluies éparses ont été prévues pour ce jeudi après-midi. Idrissa Seloudia.
Oui, bien, cette édition touche à sa fin, Gabi. Nous remercions Georges Léonard Sagno de l'autre côté de la vitre pour la mise en onde, bien entendu. Brian Marcoulier était à la console. Présentation... Et ça, c'est du lien en compagnie de Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com. On est ensemble 24 sur 24. Dans un instant, un résumé de l'actualité africaine et internationale. Ciao.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.